Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi le journal en français de KBS World Radio. Comme hier, l'édition de ce vendredi 31 octobre sera largement consacrée au sommet de l'APEC à Gyeongju. Voici nos principaux titres.
Lee Jae-myung donne le coup d'envoi du sommet de l'APEC. Lee Jae-myung réaffirme sa volonté de poursuivre la diplomatie de la navette avec Tokyo. Et enfin, hausse du nombre de visiteurs étrangers en septembre.
Le sommet de l'APEC, une rencontre économique entre les dirigeants de la région Asie-Pacifique, a officiellement débuté aujourd'hui à Gyeongju, avec pour thème « Construire un avenir durable, connectivité, innovation et prospérité ». Devant la salle de réunion du APEC Convention Center, Lee Jae-myung a accueilli un par un les chefs d'État ou de gouvernement ainsi que les délégations des 21 économies membres. Dans sa prise de parole en amont de la première session, Lee Jae-myung a annoncé s'attendre à ce que l'esprit du forum ayant déjà prouvé l'efficacité de la coopération, de la solidarité et de la confiance mutuelle, se manifeste pleinement à Gyeongju. Il a estimé que la réalité est encore peu convaincante pour donner des perspectives d'espoir et que tous les membres étaient à un moment de changement important de l'ordre mondial. Le dirigeant sud-coréen a mis en garde contre le bouleversement du libre-échange, soulignant que cette évolution fait planer une plus grande incertitude sur l'économie mondiale et affaiblit en parallèle la dynamique des échanges commerciaux et des investissements. Sur la révolution technologique que représente l'intelligence artificielle, le locataire du bureau de Yongsan a indiqué qu'elle donne lieu à une crise inédite et ouvre à la fois des possibilités sans précédent. Il a ajouté qu'une solution à ce défi difficile peut être trouvée dans l'itinéraire parcouru par l'APEC et que seule la coopération et la solidarité conduiront vers un avenir meilleur. Enfin, il est revenu sur le thème du forum. Construire un avenir durable, connectivité, innovation et prospérité. Selon lui, ce slogan représente la continuité de la vision Putrajaya 2040 de l'APEC, adoptée en 2020 lors du sommet en Malaisie. Il a souhaité voir les participants présents cette année exprimer librement sur la relance du commerce et des investissements, qui est un enjeu majeur de cette vision. Les discussions visaient à adopter la déclaration de Gyeongju. Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères Cho Yeon affirmé hier que les dirigeants réunis approchent de sa publication. En attendant, la coordination se poursuit pour trouver une expression de consensus sur le libre-échange, la valeur clé du forum que le texte doit inclure.
Nous restons à Gyeongju où le président de la République a rencontré pour la première fois ce matin son homologue chinois à l'occasion de l'APEC. Avant l'ouverture de la première session, Lee Jae-myung a accueilli Xi Jinping en lui souhaitant la bienvenue. Les deux hommes ont échangé une poignée de main, posé pour la photo, puis ont rejoint la salle de réunion. Leur entrevue bilatérale est prévue demain. Par ailleurs, dans son discours au sommet, le dirigeant chinois a appelé à la création d'une communauté Asie-Pacifique en soulignant l'importance du multilatéralisme, notamment ce qui concerne le commerce. Il a également déclaré que l'APEC devait poursuivre un développement ouvert en partageant les opportunités et en favorisant une coexistence harmonieuse.
Le président de la République est revenu aujourd'hui dans un message posté sur les réseaux sociaux sur son premier tête-à-tête avec la première ministre japonaise tenu hier soir. Lee Jae-myung y a déclaré que la Corée du Sud et le Japon sont des voisins de longue date qui partagent le même jardin. Selon lui, même s'ils se sont blessés dans le passé, comme les membres d'une même famille, ils ne peuvent pas se lâcher la main. Le chef de l'État poursuivit en estimant que la collaboration Séoul-Tokyo est plus importante que jamais. Il a alors réaffirmé sa volonté de coopérer avec l'archipel à travers la diplomatie de la navette et proposer à la nouvelle chef du gouvernement nippon de se retrouver la prochaine fois dans une ville de province au Japon. Pour rappel, les deux dirigeants se sont entretenus jeudi soir à Gyeongju. Lors de leur discussion, Lee Jae-myung a insisté sur les innombrables points communs des deux pays qui peuvent résoudre des problèmes domestiques tout comme internationaux en travaillant main dans la main. Sanae Takaichi avait alors répondu que la Corée du Sud et le Japon sont des voisins essentiels l'un pour l'autre. en soulignant que la collaboration bilatérale et celle trilatérale avec les États-Unis sont plus importantes que jamais, d'autant plus que Séoul et Tokyo célèbrent cette année le 60e anniversaire de la normalisation de leurs relations diplomatiques. D'après le bureau présidentiel, les problèmes liés à l'histoire n'étaient pas à l'ordre du jour. La nouvelle première ministre japonaise effectue son premier déplacement au pays du matin clair depuis sa prise de fonction. Des cadeaux symboliques ont été échangés. Il a offert des produits de beauté et des algues séchées à son invité qui avait annoncé lors de sa nomination s'intéresser à la K-beauty et à la gastronomie coréenne. En échange, Takaichi a préparé des pierres de Padauk, le jeu de go coréen, d'une ville japonaise jumelée à Andong, d'où son hôte est originaire.
À la veille de l'ouverture du sommet de l'APEC, le président de la République a multiplié hier les entretiens bilatéraux. Avec son homologue vietnamien, Luong Kuong, ils ont discuté des moyens de renforcer la coopération dans la lutte contre la prolifération des escroqueries en ligne en Asie du Sud-Est, ainsi que de la collaboration entre États pour faire face aux crimes transnationaux. Ce sujet s'est également invité dans les échanges avec le premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul. Les deux hommes sont convenus que la région et la communauté internationale devaient unir leurs force pour combattre ce type de délit. Enfin, avec le chef du gouvernement australien, Lee Jae-myung a souligné la longue amitié entre les deux nations. De son côté, Anthony Albanese a proposé de renforcer la coopération dans les domaines des minéraux essentiels et des terres rares, ainsi que dans la sécurité et la défense.
Et pour refermer ce chapitre, en Corée du Nord, Kim Jong-un n'a fait aucun commentaire au sujet des multiples propositions de rencontre de Donald Trump en déplacement en Corée du Sud ces deux derniers jours. En revanche, il s'est rendu hier sur le chantier d'un hôpital à Gangdong, en périphérie de Pyongyang. Selon la KCNA ce matin, il y a souligné l'importance de la santé publique ainsi que la fonctionnalité et l'expertise pour la construction d'hôpitaux.
Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio.
Dans le reste des actualités, la Corée du Sud lancera dimanche son 5e satellite de reconnaissance depuis la base spatiale de Cap Canaveral en Floride aux États-Unis. Une annonce faite aujourd'hui par le ministère de la Défense. Selon ses explications, si le pays réussit à le placer en orbite, il pourra mieux surveiller le nord et détecter les signes de provocation de façon plus rapide et plus précise. Cette opération est la dernière étape du projet 425 visant à lancer un total de 5 satellites espions d'ici la fin de l'année. Les trois premiers ont déjà commencé leur mission et le quatrième, lancé en avril dernier, fera de même après les résultats de son test d'évaluation. Le cinquième, comme les trois précédents, est équipé d'un radar à synthèse d'ouverture permettant de capturer jour et nuit des images haute résolution de la surface de la Terre, quelles que soient les conditions météo. Une fois que tous les satellites auront entamé leur mission, l'armée sud-coréenne sera en mesure d'espionner des infrastructures cibles au nord de la péninsule toutes les 2 heures environ.
Sans transition, 89% des systèmes administratifs touchés par l'incendie au centre de données du gouvernement à Daejeon ont été normalisés. C'est ce qu'a déclaré ce matin le chef du siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité. Selon Yoon Ho-jung, sur les 709 systèmes affectés, 631 sont de nouveau opérationnels et les services classés de niveau 1 directement liés à la vie quotidienne des citoyens ont été rétablis à 100%. Sur les 78 restants, 64 sont en réparation et leur rétablissement complet est prévu d'ici la troisième semaine de novembre.
Et pour terminer, quelque 1 700 000 touristes étrangers ont foulé le sol sud-coréen en septembre, soit une hausse de 16% sur un an et de 17% par rapport à l'avant-Covid-19, selon l'Office national du tourisme. Sans surprise, les Chinois étaient les plus nombreux à venir découvrir le pays du matin clair, suivis par les Japonais, les Taïwanais et les Américains. Les arrivées de visiteurs chinois et japonais ont ainsi atteint respectivement 93 et 147% de leur niveau du même mois de 2019. Les chiffres sont 150 et 134% pour les Américains et les Taïwanais. La fréquentation étrangère sur les 9 premiers mois de l'année a ainsi grimpé de 16% par rapport à la même période de l'an dernier à plus de 14 millions. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Oh Hayoung et Baptiste Mourigal. Merci de votre fidélité et bon week-end à l'écoute de KBS World Radio.